fait des jours hein, que t'es sur la fabrication du traîneau. Bah, arrête un peu, va, tu vas louper la JT du local.
Pas de traîneau, pas de Père Noël.
Qu'est-ce que la musique convoque en nous? Comment nous accompagne-t-elle et quel rendez-vous nous propose-t-elle? C'est d'une longue et belle histoire dont on va parler aujourd'hui dans cette émission, celle du Festival des Trois Éléphants. Et avec moi, pour vous raconter un peu cette histoire, Véronique Lecomte, coprésidente de l'association Poc Poc. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et vous verrez, amis auditeurs, qu'on continue un peu de réfléchir aux moments forts de notre vie, tels que le deuil, la mort, toujours avec cette place importante de la musique qui nous permet sans doute de poser un peu mieux ces questions-là. Puisque dans la suite de cette émission, on se rend au Reflet à Saint-Berthevin qui nous a accueillis pour découvrir les répétitions de la pièce Hibou de la compagnie Les Trois Points de Suspension. La pièce s'est jouée la semaine dernière et aborde justement cette question du deuil, de la mort, de la cérémonie funéraire. Elle questionne finalement notre rapport à ce moment intime, douloureux. Qu'est-ce qu'on en fait finalement ? Et puis on est nombreux en fait en studio aujourd'hui pour vous accompagner en ce début de semaine puisque je suis avec Léni et Nour. En fin d'émission, on écoute leur chronique Cinéma de l'avant-scène. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Salut.
Lucie, je ne t'oublie pas, j'espère que tu vas bien. Tu commences avec nous peut-être par un point sur les actualités.
Eh oui, bonjour. Bon, alors chers auditeurs, aujourd'hui je vais faire seulement deux actualités parce qu'elles sont toutes les deux assez intenses. Pour commencer, Margot, est-ce que tu connais L214 ?
Non, dis-moi.
En quelques mots, c'est une association de défense des animaux utilisée comme ressource alimentaire qui existe depuis 2008. Bon, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont publié jeudi dernier, le 14 décembre, une nouvelle enquête vidéo à l'appui montrant les conditions d'abattage de jeunes cerfs dans un élevage situé dans la commune de Courbeveille sur notre territoire. L'enquête révèle notamment que les animaux sont mis à mort à coups de couteaux, parfois multiples, alors qu'ils sont mal étourdis. Les règles sanitaires ne sont d'ailleurs pas respectées d'après eux. L'association décrit une, je cite, « une salle d'abattage archaïque sur le lieu de l'élevage, avec des installations précaires et sans désinfection ». Face à tout ça, L214 porte plainte pour mauvais traitement et demande l'arrêt immédiat de l'activité d'abattage de cet élevage. De son côté, la préfecture a réagi dans un communiqué le 15 décembre. Elle commence par expliquer que les cervidés, donc les chevreuils ou les cerfs, ne font pas l'objet d'un élevage et d'un abattage similaire à celui d'autres animaux destinés à la consommation humaine. Elle précise également que la réglementation prévoit une procédure spécifique pour que les cerfs soient mis à mort sur leur lieu d'élevage pour leur éviter différents facteurs de stress et que ça rentre donc dans une pratique légale et encadrée. La préfecture termine son communiqué en écrivant, je cite, « L'élevage incriminé dans la vidéo diffusée par L214 fait l'objet d'une visite régulière par les représentants des services de l'État chargés d'inspection, la dernière ayant lieu en avril 2023. » Fin de citation. Selon eux, l'éleveur détient les autorisations requises pour assurer la mise à mort de ses animaux sur le lieu d'élevage et il disposerait des installations qui garantissent le respect de la réglementation et la sécurité sanitaire.
Est-ce que depuis, il y a eu des réactions au communiqué de presse de la préfecture, Lucie ?
Tout à fait. L214 maintient sa plainte et entame également un recours contre l'État pour carence de ses services vétérinaires. Ils estiment que le non-respect des règles sanitaires est malgré tout évident et déplorent que la visite des vétérinaires d'État, qui a eu lieu en avril, qui est donc évoquée par la préfecture, n'a pas fait l'objet de procès-verbal. L214 pointe également du doigt ce qu'elle estime être un manque de cohérence en évoquant notamment l'existence de 40 abattoirs agréés par le ministère de l'Agriculture pour l'abattage des cerfs où les animaux font face aux mêmes facteurs de stress qui sont supposément à éviter et qui étaient permis par ces dérogations. Sébastien Arsac, qui est porte-parole de l'association, exprime aussi que, je cite à nouveau, cette communication de la préfecture est cocasse. Elle reconnaît que les abattoirs ne sont pas des lieux adaptés à l'abattage des cerfs, alors que même la majorité d'entre eux sont tués en abattoir. Fin de citation.
Tout ça pose question, surtout à l'approche des fêtes, là où on consomme le plus de venaison. En parlant des fêtes, tu avais autre chose à nous dire, Lucie ?
Tout à fait, c'est sur un autre sujet, mais la préfète de la Mayenne, Madame Marie-Aimée Gaspari, a communiqué deux arrêtés pour prévenir toute atteinte à la sécurité et à la tranquillité publique. Dans le premier arrêté, ça concerne les feux d'artifice. Pour la faire courte, vous ne pouvez plus en acheter depuis jeudi dernier et vous n'avez pas le droit de les utiliser dans les espaces publics, dans les immeubles et sur les lieux de grands rassemblements. C'est valable jusqu'au 7 janvier 2024 inclus. Et bien évidemment, cet arrêté ne concerne pas les professionnels. Donc, on aura des feux d'artifice, ne vous en faites pas, simplement, pas par n'importe qui et pas n'importe comment. Et le deuxième arrêté interdit la distribution, l'achat et la vente à emporter de carburant dans tout récipient transportable. Ça comprend aussi la vente à la pompe de combustible domestique et c'est à compter du vendredi 22 décembre, 8h, jusqu'au mardi 2 janvier, à 8h également. Et pour finir, la préfecture rappelle que l'arrêté du 20 juillet 2022 qui interdit la vente d'alcool à emporter dans le département entre 22h et 8h du matin est applicable de façon permanente.
Merci Lucie. Je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, nous sommes en charmante compagnie aujourd'hui puisque nous avons avec nous Véronique Lecomte, coprésidente de l'association POC POC. Vous êtes donc la coprésidente sur Laval et aujourd'hui on va parler musique et du festival des Trois Éléphants. Alors déjà, qu'est-ce que l'association POC POC ?
Alors merci pour le charmant de compagnie, je suis ravie de ce compliment dès le début. Alors l'association POC POC, c'est donc une association culturelle qui existe depuis 2003, même si le festival lui a fêté ses 25 ans, et qui réunit toutes les énergies volontaires et une super équipe salariée pour développer donc sur le territoire diverses activités, donc bien évidemment sur Laval avec un public maintenant qui s'élargit au-delà bien sûr de la ville, la salle, la scène de musique actuelle, le 6x4 pour la diffusion. Ensuite, c'est une association aussi très engagée dans l'action culturelle, hein, avec le développement de diverses activités sur une grande diversité de publics, hein, je dirais des scolaires jusqu'aux EHPAD, en passant aussi par la maison d'arrêt et tout autre public en situation de demande particulière en lien avec la musique. Un gros travail aussi d'accompagnement des groupes locaux pour les accompagner à la fois dans leurs pratiques, mais aussi les former sur un plan juridique, sur la connaissance des différentes règles en matière d'engagement dans la musique. Voilà. Et puis, bien évidemment, deux festivals. Le tout prochain, c'est celui qui sera destiné au jeune public sur la période des vacances de février qui s'appelle Monte dans le bus, en partenariat avec le 40. Et enfin, le festival Les Trois Éléphants.
Justement, aujourd'hui, on va particulièrement parler du festival des Trois Éléphants qui a aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, 25 ans. Et pour l'occasion, un documentaire donc retraçant l'histoire de ce festival vient de sortir. Donc le nom du documentaire, c'est Trois Éléphants, portrait d'un festival associatif. Mmh. C'est un documentaire réalisé par Étienne Blanchard, produit par l'association POC POC et Prisma Laval et avec le soutien de la Fondation Mécène Laval ainsi que le Crédit Mutuel. Donc 25 ans, ce n'est pas rien. Si on remonte justement au tout début de cette histoire, comment ça a commencé le festival ?
Eh bien, le reportage le dit très bien, le documentaire, mais c'est d'abord une super histoire de copains sur le territoire de Lassay-les-Châteaux qui, trouvant qu'il ne se passait pas trop de choses en Mayenne en termes de musique actuelle il y a 25 ans, s'est mis au défi de monter un festival. Donc un festival qui effectivement est né à Lassay. Voilà, pour les curieux, vraiment aller voir parce que toute cette histoire de Lassay, vous la retrouverez dans le documentaire. Et puis, à déménager ensuite à Laval donc pour s'y épanouir en tant que festival, je dirais plus maintenant de ville, quoi, hein, de centre-ville. Voilà, et qui regroupe une programmation musicale, mais aussi qui est associée à une programmation d'art de rue et tout ça une programmation de au vol très chouette et qui est à la fois sur des artistes connus, mais surtout dont l'objectif est aussi d'accompagner toute la découverte.
Et alors justement, ce festival est aujourd'hui incontournable sur le territoire. Quel impact ça a, la création d'un tel événement sur un territoire comme le nôtre ?
Alors, un tel événement, c'est, c'est faire vivre notre territoire au travers de la musique, faire un focus à un moment donné sur notre territoire, la Mayenne, avec cet événement fort et avec un véritable engagement de la population, effectivement, du territoire. Puisque la réflexion sur le festival, elle se fait avec les bénévoles, avec des bénévoles qui travaillent en commission au préalable, qui se fait aussi en s'appuyant bien évidemment sur les valeurs et les missions de l'association, qui sont de défendre l'émergence, de défendre ce qui se passe en Mayenne, et puis mais aussi d'ouvrir sur la connaissance de différents artistes à l'international. Et puis c'est aussi l'engagement de différents partenaires, notamment surtout l'aspect vie dans cette période-là de la cité, avec toutes les décos. Vous avez vu l'année dernière, la ville était rouge. Donc là, il y a une autre perspective de thématique sur cette année où on essaiera de rêver ensemble. Et pour ça, on associe, là encore, comme je le disais tout à l'heure, de nombreux partenaires. Et puis, sans bénévoles, pas de festival. Donc sur la durée du festival, c'est autour de 400 bénévoles qui se mobilisent pour faire vivre cette période un peu fun sur la ville.
Et alors, vous nous parliez de rêve là il y a quelques instants. Est-ce qu'il y a eu, au contraire, des moments peut-être plus difficiles dans l'histoire de ce festival durant les 25 ans ?
Durant les 25 ans, je pense que la période la plus difficile, ça aurait été la période Covid. Entre annulation, hésitation, oui, on va faire, non, on va pas faire, oui, on va faire. Chaque année, on a réussi à faire quelque chose, c'est-à-dire qu'en 2019, même si le festival, sur le plan de la diffusion, a été annulé, on a fait vivre au moins l'art de rue dans des jauges un peu particulières, complètement resserrées, et puis avec des expos photos qui circulaient dans l'aval, sur les tableaux, les panneaux publicitaires, à la Périne, pour montrer que, à cette période-là, on aurait dû avoir. Donc ça n'a pas été simple à traverser pour les équipes, mais on en garde que la force qu'on a maintenue à ce moment-là pour rebondir et puis faire une super édition l'année dernière, puisqu'on a été complet sur la partie musicale sur les deux soirées.
Et alors justement, comment peut-être se construit cette programmation ? Comment vous réfléchissez à la programmation ?
Alors moi, personnellement, je réfléchis à pas grand-chose, parce que je suis un peu une quiche en matière de connaissances d'émergence. Mais bon, je fais confiance à nos programmateurs, et que sont Perrine et Guillaume, qui eux sont à l'affût à la fois de ce qui va pouvoir, faire plaisir au public, et avec un public diversifié, c'est-à-dire que on puisse à la fois toucher le public jeune avec la musique qu'il aime, puisque aujourd'hui, on ne peut pas se le cacher, le rap est la musique la plus écoutée par le public le plus jeune, mais aussi garder avec nous tous ceux qui aiment le pop, la pop, l'indie, et puis quelques têtes d'affiche. Et là, on est tellement contents de voir Étienne Dao venir en Mayenne. Donc, mais cette programmation surtout, elle respecte aussi toutes les valeurs de l'association, et puis comme je vous disais, son engagement de favoriser l'émergence. Et quand on vient aux Trois Éléphants, c'est bien de venir aussi, quasiment les yeux fermés, les oreilles fermées, parce que jamais on repart en se disant « Ah non, j'ai rien découvert, c'était… » Non, tout le temps, on redécouvre des choses, et on découvre aussi souvent des choses qui, d'ici 2-3 ans, on pourra plus les offrir, parce qu'ils seront sur le devant de la scène, mais nous, on les aura vus en exclusivité avant.
Donc faire confiance à la programmation. Vous avez d'ailleurs, il y a 3 jours, annoncé 5 nouveaux artistes pour la prochaine édition. Luther, Opinard, Ada Oda, Caboché et Malo.
Voilà.
Il y avait d'autres noms, vous l'avez notamment dit, Étienne Dao et d'autres encore qui ont été annoncés avant. Il faut suivre ça de près.
Ah oui, allez sur les réseaux, et puis regardez, on commence à être affiché en ville, donc il faut y aller.
Et donc, si on revient sur le documentaire qui a été donc réalisé par Étienne Blanchard, comment a été pensé ce projet peut-être ? Comment a été construit ce projet de documentaire à partir peut-être d'images d'archives ? Je ne sais pas, comment vous avez construit
Alors,
ça ?
Déjà, bon, Étienne, il faisait partie hein, des fondateurs. Il était dans les premiers bénévoles du festival à la Saye et il a construit sa carrière professionnelle donc autour de la réalisation. Et donc, pour les 25 ans, bah, l'idée, c'était effectivement de pouvoir réaliser quelque chose, de marquer peut-être une étape et puis de faire un focus sur ce qui s'était passé en 25 ans. Et donc, on a fait le choix de lui laisser carte blanche. Pourquoi ? Bah, parce qu'il connaît le territoire, il connaît l'histoire du festival. Et on l'a laissé effectivement construire, je dirais, le fil conducteur de ce documentaire. Il s'est appuyé, bien évidemment, sur des images d'archives, films, photos. Alors, Prisma, qui est coproducteur, lui, avait en stock des heures et des heures et des milliers d'heures même hein, de rush à pouvoir débriefer. Et donc, en plus, Étienne s'est appuyé sur tous les bénévoles. C'est un documentaire qui alterne à la fois interviews, témoignages, images récentes et puis plus anciennes de cette belle histoire.
Donc avec son expérience à lui, puisque vous l'avez dit, il est là depuis le début. Mmh. Donc le documentaire est à retrouver donc à l'avant-scène. Il est projeté demain soir ainsi que samedi.
Oui.
Donc voilà un documentaire vraiment à découvrir parce que finalement, ça nous permet de voir un peu les coulisses de ce festival que l'on connaît tous.
Voilà, ça nous permet de voir les coulisses du festival et en même temps, sa force aussi, c'est de pouvoir permettre aux petites associations font un petit peu ce même, développent ce même type d'activité ou ont envie de faire vivre leur territoire ou les font vivre sur leur territoire depuis un moment avec des petits festivals associatifs. Eh bien, on se rend compte que c'est vraiment un documentaire sur lesquels, dans lequel ils peuvent se reconnaître, c'est-à-dire de par les valeurs qu'ils défendent, de par l'histoire de l'engagement de tout ça. Je pense que toutes ces assos culturelles, parce que le territoire de la Mayenne fourmille d'énergie sur le développement de ces activités culturelles, et vraiment, il est à la fois un regard sur l'historique, mais aussi une deuxième partie avec une analyse sur les enjeux aujourd'hui de ces petits festivals engagés où les bénévoles sont très très forts et où justement on défend des valeurs, de l'émergence dans un monde où la musique devient hélas un gros marché et pour ne pas dire du business. Donc nous ce qu'on défend c'est plus des valeurs, de la découverte, du soutien des jeunes artistes pour tous les publics.
Donc écouter de la musique, c'est aussi un engagement, le choix de comment on la consomme et à quel festival peut-être on se rend. Donc c'est à découvrir à l'avant-scène demain soir et samedi soir. Prenez vos places, n'hésitez pas, on a nos amis de l'avant-scène qui sont justement avec nous aujourd'hui. Merci Véronique d'avoir été avec nous pour nous présenter ce beau projet et puis pour nous parler un peu plus du festival.
Merci à vous et puis si jamais certaines petites salles veulent le diffuser, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je pense que c'est un documentaire qui peut rayonner, voire au-delà de la Mayenne. N'hésitez pas. Merci.
Et donc, je vous propose d'écouter maintenant, peut-être faire une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter Isaac Delusion, qui est justement programmé cette année au Festival des Trois Éléphants. Après 3 ans de silence, il revient avec un 4e album sorti en juin 2023. Et ce titre, c'est le premier volet de ce nouveau départ pour Isaac Delusion.
Let it go, let it go, let it go.
Mercredi dernier, je me suis rendue à l'espace culturel Le Reflet à Saint-Berthevin pour rencontrer la compagnie Les Trois Points de Suspension qui répétait son spectacle Hibou avant leur représentation le soir. Une scénographie particulièrement circulaire au centre de laquelle jouent les comédiens. On écoute Jérôme Coulou, comédien, accordéoniste et chanteur dans la compagnie qui nous parle de ce très beau projet.
On est trois au plateau, on est trois sur scène. Renaud qui joue du saxophone, qui a donc passé son diplôme de conseiller funéraire et maître de cérémonie à l'occasion de toute la période de création et de recherche qu'on a faite autour de ce spectacle. Et Cédric qui s'occupe du son, de la lumière, qui a fait la scénographie aussi, toute la table et les gradins, c'est lui qui les a conçus et construits. Voilà, et puis il y a un metteur en scène aussi qui n'est pas là, qui s'appelle Nicolas Chapouillet, qui est le directeur artistique de la compagnie. Hibou, alors c'est une création qui nous a demandé 3 ans de travail. D'habitude sur nos spectacles, on prend le temps de faire une sorte de travail d'enquête avant de sortir la création. On a fait énormément d'expérimentations autour de ce sujet. On est parti du principe qu'on a récolté énormément de témoignages de gens qui étaient déçus finalement des cérémonies auxquelles ils ont participé ou assisté. Parce qu'on se rend compte qu'on est à un moment de notre vie sociale, culturelle, où on a mis la mort de côté et où il y a quelque chose, on a perdu les rituels qu'on avait autour de la mort, qui étaient essentiellement maintenus et tenus par la religion. Et voilà, on a perdu un peu tout ça, et du coup, du sens de tout ça et de ce moment si important. Finalement, c'est un moment où on réunit des gens dans un espace commun, il y a de la lumière, il y a du son, il y a des textes qui vont être dits, il y a des enchaînements qui vont se faire, il y a de l'émotion, il y a des gens qui sont réunis ensemble, qui ne se connaissent pas forcément. En fait, c'est exactement comme un spectacle. Qui mieux que les metteurs en scène pouvaient s'intéresser à cette question et essayer de la faire avancer. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Pas du tout triste ou glauque ou déprimant ce sujet. Au contraire, c'est hyper vivifiant, hyper énergisant. Toute la question autour de écrire ses dernières volontés, c'est pareil. On a été évidemment confronté aux questions de base. C'est oui, mais si j'écris mes dernières volontés, j'écris ce que je veux pour ma cérémonie, par exemple. C'est pas moi qui dois, c'est les gens qui restent qui font faire la cérémonie, moi je ne serais plus là. Et en fait, ben si, en fait, si on laisse quelque chose, si on, ça permet aux gens qui organisent la cérémonie d'avoir des repères aussi. Ah, il voulait ça, tiens c'est rigolo, ah il voulait ça, ce con, non on va pas le faire. Ou par rapport aux objets, par exemple, qui appartiennent à un mort, qui peuvent être source de grande joie pour les gens à qui ils sont destinés. Ou de grandes disputes aussi. Toutes ces questions-là, quand on y réfléchit avant, qu'on laisse une trace de tout ça, ça peut amener beaucoup de paix, beaucoup de, justement, de faire cohésion, faire communion entre les gens qui restent. Donc voilà, toutes ces questions-là qu'on a rencontrées, qu'on a étudiées, faire un spectacle sur la mort par rapport aux vivants, et ça nous a ramené à un endroit de la vie, peut-être aussi tout bêtement parce que, ben en fait, tout ce qu'on fait dans nos vies est conditionné par le fait qu'on est mortel. Donc cette question un peu là qui était aussi peut-être qu'on n'a plus assez en tête. Ou voilà. On s'attaque concrètement à la question de « Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un corps mort là, comment on fait ? Est-ce qu'on peut encore garder le mort à la maison ? On a 6 jours pour enterrer un mort. » C'est toutes ces questions-là dont on n'a pas conscience. On a 6 jours, donc on a le temps. Donc on a le temps de réfléchir, de parler, de demander aux pompes funèbres si on a envie de ramener le corps à la maison. C'est une chose qu'on ne pense plus à faire. On peut fabriquer soi-même son propre cercueil, sa propre urne cinéraire. Toutes des questions qui peuvent paraître triviales et qui, en fait, sont au cœur de ce moment qui est la cérémonie, qui est un moment qui réunit des gens qui ne se connaissent pas forcément et qui ont tous des besoins différents à accomplir à ce moment-là. Comment est-ce qu'on crée cette magie de, d'avoir des gens qui sont différents, qui ont des besoins différents, qui ont des rapports différents aux morts, et qui pourtant sont tous ensemble au même endroit, au même moment. Voilà, donc c'est assez concret aussi tout ça. La musique, c'est typiquement ça son rôle, c'est-à-dire un espace suffisamment ouvert pour que chacun puisse y mettre de soi à l'intérieur et que les besoins émotionnels qui sont à l'intérieur des gens puissent s'accomplir dans ces moments-là. Donc, musique comme fenêtre ouverte pour digérer ce qu'on vient d'entendre, les émotions qu'on vient de recevoir, se reconnecter avec soi-même, avec sa propre histoire, avec ses propres morts, etc. La musique, elle a ce rôle-là, ouais.
Écoutez l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Dans quelques instants, on écoutera Léni et Nour de l'avant-scène qui sont venus en studio avec leur chronique en poche. C'est dans quelques instants. Pour l'instant, on fait une petite pause musicale.
Et moi, je vous propose un voyage éclair à Berlin. On écoute Sirius Mo avec son titre « Idéologie ».
Sont avec nous aujourd'hui en studio. Ils nous parlent du cinéma avec l'avant-scène et d'ailleurs de cinéma tout court. De quoi vous nous parlez aujourd'hui ?
Bonjour, donc dans un premier temps, je vais vous parler des sorties nationales et des films qu'on va avoir sur ces deux prochaines semaines. Donc en sortie nationale, on va avoir pour la semaine prochaine, qui commence à partir de mercredi 20 décembre, Les Colons, La fille de son père et Voyage au pôle Sud, et qui commence à partir du 27 décembre, L'innocence et Dream Scénario. Je voulais juste faire une petite précision, c'est que à partir de la semaine prochaine, enfin de la fin de cette semaine, on est en vacances scolaires. Et pour cela, du coup, on a une programmation qui est vraiment plus axée jeune public. Et donc, sur cette semaine, on va avoir plusieurs diffusions de L'incroyable Noël de Shaun le Mouton et Le Grand Magasin. Et la semaine prochaine, on va retrouver également L'incroyable Noël de Shaun le Mouton et Le Grand Magasin, mais également L'hiver d'Edmund et Lucie, Opération Père Noël et Les Tout Rouges et Les Tout Bleus.
Merci Nour. Léni, tu es venu avec quelque chose.
Moi, déjà bonjour. Je vais vous parler d'un film qui sort mercredi prochain, donc pas celui de cette semaine, mais celui de la semaine d'après, donc le 27 décembre, et ce film c'est L'Innocence. L'Innocence, c'est un film que je n'ai pas vu, parce qu'il n'est pas encore sorti, mais je l'attends énormément, car il s'agit de la nouvelle réalisation d'un metteur en scène que j'affectionne tout particulièrement, et ce monsieur, c'est Hirokazu Kore-eda. Pour ceux qui le connaîtraient peu ou alors pas du tout, Kore-eda, c'est un réalisateur japonais d'une soixantaine d'années, et son cinéma, c'est un cinéma qui s'accroche à une expression de la vie en douceur, évoquer le passé calmement, dans un calme japonais auquel on raccroche d'autres réalisateurs comme par exemple Ozu, qui est un de mes metteurs en scène préférés, et un des maîtres de Kore-eda. Et Kore-eda, comme Ozu ou Naruse le faisait il y a plus de 60 ans, met en scène la famille japonaise telle qu'elle est. Dans son œuvre, c'est une chronique qu'il écrit. C'est un cinéma socio-familial dont les thématiques ne touchent pas qu'une société japonaise, mais un âge, une sensibilité. C'est finalement une image non étriquée de ce dont la vie se compose. Pardon. Je peux alors citer des films comme Still Walking, qui est entre autres un film sur le deuil et qui est un des films les plus importants pour moi, ou par exemple Une affaire de famille, qui a obtenu la Palme d'Or du Festival de Cannes en 2018. Son dernier film, avant L'Innocence donc, qui s'intitule Broker ou Les Bonnes Étoiles en français, est d'ailleurs un magnifique film sur l'adoption et les conditions familiales. Kore-eda, c'est le cinéaste de rancœur dont la colère s'exprime au moyen d'une plénitude, d'un apaisement, et chez Kore-eda, le souvenir s'extériorise avec humanisme et minimalisme. La souffrance se prend et s'étudie avec délicatesse, une délicatesse japonaise que l'on ne retrouve que là-bas. L'œuvre de Kore-eda est une œuvre humaine dont la régularité montre qu'une vie ne s'écrit pas en quelques lignes, mais au sacrifice d'une vie, une vie au service d'une image qui bouge et qui, malgré ce mouvement, nous apaise. Merci.
Merci Léni. Et Nour, tu as quelque chose à ajouter, je crois.
Oui, je tenais à rappeler que le cinéma de l'avant-scène, c'est un cinéma associatif qui est pour tous et par tous. Et dans cette idée-là, nous souhaitons rappeler que nous sommes aptes à accueillir différentes structures en termes de groupe, que ce soit des structures pour les enfants, des structures pour le handicap, car nous le rappelons, nous avons 120 places donc, et ainsi que 4 places PMR donc pour les fauteuils roulants. On cherche aussi à accueillir des foyers, des structures pour les personnes âgées, mais encore des BDE ou alors tout autre groupe. On a des tarifs préférentiels pour les groupes. On est tout à fait on attend ces collaborations avec impatience, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour nous demander s'il est possible de mettre en place des séances de films que vous souhaitez voir ou bien alors de films que nous avons programmés. Nous pouvons tout faire, nous sommes très
très ouverts.
Très ouverts, merci.
Et donc peut-être même vous contacter par mail ou par téléphone ?
Tout à fait, par mail. Alors l'adresse mail, vous l'avez juste derrière le programme qui est à l'avant-scène, je vais vous la dire, c'est contact@avancenelaval.org. Si vous passez par celle-là, nous pourrons vous répondre.
Merci Léni, merci Nour. On arrive, nous, à la fin de cette émission. Lucie, à 19h, qu'est-ce qu'on écoute sur l'autre radio ?
À 19h, c'est Solénoïde qui vous offrira un mix transversal de musique pas banale.
Et alors, l'émission est suivie à 20h de la discothèque.
Tout à fait, c'est celle de Morgane que l'on découvre ce soir.
Merci Lucie, merci Léni et Nour. On se retrouve demain à 12h15 pour une nouvelle émission. Bon courage pour cette semaine qui commence. Prenez soin de vous et puis surtout, faites-le bien.
Bon ben Mimi, on dirait que c'est fini.